Voilà, donc ce soir on reçoit Daniel Ben Saïd. Alors on va sûrement parler de Onfray, de Tariq Ramadan, du Venezuela, du Brésil, de la mondialisation, de l'altermondialisme, de l'antisémitisme, du racisme, de la laïcité, de l'antisémitisme, de Caracas, de Davos, de Porto Alegre. Voilà autant de sujets qu'on envisage dès maintenant d'aborder. Bon, on a une heure, on va faire ce qu'on peut. Si vous êtes avec nous ce soir, alors ce qui nous a servi de prétexte pour vous inviter, c'est la publication aux éditions Ligne de Fragments mécréants, Mythe identitaire et République imaginaire, qui est paru il y a quelques temps. Donc Juliette, tu as lu le livre, tu voulais dire deux, trois mots pour commencer.
Oh, mais c'était juste pour introduire un peu le livre, parce que pour savoir de quoi on parle. Grosso modo, dans votre livre, vous expliquez que la mondialisation libérale a produit des paniques identitaires qui ont fait que les gens se sont repliés sur leur communauté et à la recherche de leurs racines, et que face à cela, vous pouvez me contredire. Hein,
jusque-là, ça va.
Jusque-là, ça va. Et face à cela, la République a voulu remettre en place un idéal que vous qualifiez pour vous de totalement imaginaire, puisque d'une façon autoritaire, il a voulu recréer cette espèce de monde qui n'a jamais existé. Donc ça, c'est le point de départ, grosso modo, du livre Fragments mécréants, mythe identitaire, justement, et République imaginaire.
Oui, mais c'est c'est exactement ça. C'est parti d'une inquiétude. Hein. C'est pas un livre qui était un projet dans les tiroirs ou un projet à long terme. C'est plutôt une réponse un peu à chaud au printemps dernier, en voyant s'accumuler finalement les dérapages, les incidents. Alors il y a eu, je crois que je l'évoque, une manif. Ça devait être début mars, aux alentours de début mars. Contre l'antisémitisme, convoqué par SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs, qui ont refusé la demande pourtant élémentaire de la Ligue des droits de l'homme et du MRAP, que ce soit une manif contre tous les racismes. Donc ça veut dire, le message, c'est on défend les nôtres, et puis point. Et puis, il y a des questions qui sont pas évoquées dans le bouquin, mais enfin, on pourrait... Tous les mois, il y en a une nouvelle. Il y a eu la compétition... à qui est plus malheureux et au malheur incomparable entre Dieudonné et Finkielkraut. Il y a eu la mise au pilori de Petré Grenouillot avec demande d'interdiction professionnelle, puis plainte en justice qui a été retirée à propos du débat sur la traite négrière. Et puis maintenant, on a eu également les controverses autour des manifs. Quelle manif, quelle réaction après l'assassinat d'Ilan Halimi. Bon, mais donc il y a quelque chose qui se décompose dans l'air du temps et qui est assez inquiétant. Et comme les deux grandes formes de solidarité qu'on peut discuter, mais qui étaient des solidarités sociales, des communautés de travail ou d'habitat sont bousculées ou brutalisées d'un côté, comme la mondialisation remet en cause, c'est pas forcément négatif, ça dépend dans quel sens on va, les sentiments d'appartenance nationale, ben panique identitaire, ça consiste à remonter aux origines, aux sources, aux racines, avec ce que peut avoir de délirant cette espèce de quête angoissée des origines. On a vu au moment des négociations de tabac sur Israël envisager un partage entre Israéliens et Palestiniens de Jérusalem, non plus sur le plan horizontal, ce qui serait déjà discutable, mais sur le plan vertical en fonction de la datation des fouilles, et donc faire remonter la légitimité à l'archéologie, là au sens matériel du terme. Bon, là on est dans le délire absolu, je crois que, au contraire, hein, faut prendre les gens dans leur devenir, dans leur présent, dans ce qu'ils sont. J'ai retrouvé, parce que j'avais lu ça il y a longtemps, des passages de Frantz Fanon qui sur ce plan-là, tout a évidemment en protestant du sort et subi notamment par les esclaves et la discrimination raciale, en revanche refuse d'être, comme il le dit, esclave de l'esclavage et d'être rivé à son passé plutôt que de se projeter dans un futur commun.
Justement, cette année, il y a eu un grand débat autour du rôle positif de la colonisation et peut-être, vous pouvez nous en parler.
Bon, le rôle positif de la colonisation, la loi, de toute façon, a été une loi absolument revancharde de lobbying parlementaire, qui est bien dans l'air du temps. Hein, c'est pas par hasard, c'est tombé maintenant. Vous avez évoqué les projets de loi sur l'immigration, etc. Et dans ce contexte-là, on a l'impression qu'il y a une droite qui est complètement décomplexée, qui... Le fait qu'on n'ait jamais traité à fond la question, justement, du retour critique sur la colonisation en France, même dans la littérature ou dans le cinéma, on n'a pas l'équivalent. Il y a des choses, mais il n'y a pas l'équivalent de ce qui s'est fait aux États-Unis sur le Vietnam, alors que l'affaire a été tout aussi importante et tout aussi douloureuse. Bon, alors, ça, c'était carrément une provocation, hein, la loi sur la colonisation. Maintenant, le débat qui s'est engagé autour, là, me paraît très important, qui était le fameux débat sur les lois dites mémorielles. Moi, je suis réticent depuis longtemps. Je sais que c'est toujours dérapant comme sujet et on peut donner des verges pour se faire battre. Mais je trouve qu'il y a quelque chose... il y a une confusion, finalement, entre l'histoire et la mémoire. Sur l'histoire, après tout, c'est un chantier permanent. Et on a vu, moi ça m'avait déjà choqué au moment du procès Papon, du coup une confusion entre les fonctions de juge et d'historien. Le fait qu'on ait cité comme témoin au procès Papon des historiens, un seul s'est récusé, qui est Henri Rousseau, tous les autres ont accepté, mais ils sont pas dans leur rôle. Un témoin, bon, vous connaissez comme moi la formule, jure dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, jurer devant un tribunal, de dire toute la vérité historique? C'est extrêmement prétentieux. Et du coup, on a des effets pervers où les historiens, acceptant de témoigner, donc de se faire les porteurs de vérité historique, eh bien, les juges sont amenés réciproquement à juger de la validité du travail des historiens. Et on est là dans une confusion des rôles, des genres, qui est qui me paraît très dangereux. Bon, alors, la question a surgi à propos de la loi Guesso, etc. Je trouve en tout cas le débat est intéressant. Il n'est pas simple, mais il est intéressant. Sur la colonisation elle-même, on peut pas faire valoir les antennes médicales contre ce qu'a représenté 1 million de morts dans la guerre d'Algérie ou les 14 millions ou 17 millions de déportés au titre de la traite négrière vers les Antilles et l'Amérique latine. Bon, là, on est... Si la notion de crime contre l'humanité a un sens, on pourrait en discuter, à l'évidence, elle s'applique à ces crimes de masse. Et ces crimes d'État. Voilà, bon, là-dessus, la question... Bon, il y a eu beaucoup de choses, quand même, de fait. Hein, ça a été l'occasion pour les historiens, le bouquin de Olivier Lecourt-Grandmaison sur « Coloniser, exterminer ». Puis il y avait des bouquins avant qui étaient passés inaperçus. Il y en a un étonnant, qui, pour moi, reste presque le modèle du genre. C'est le Saint-Arnaud de François Maspero. Alors, comme ça surprend, on dit, bon, Saint-Arnaud, un traîneur de sabre... qui a sévi aussi bien d'ailleurs en Algérie que contre le peuple parisien. Hein. Mais en fait, Maspero a fait une sorte de monument négatif à Saint-Arnaud, un bon quintal de déshonneur français. Bon, aborder la colonisation à travers la biographie de Saint-Arnaud, c'est déjà pas mal.
Ça s'appelle l'honneur de Saint-Arnaud.
L'honneur de Saint-Arnaud.
Moi, je voulais. Alors, on dresse un tableau un petit peu. Ça ressemble à votre livre, hein, notre interview, puisque c'est des chapitres comme ça qui se télescopent au gré de. On a eu l'appel des indigènes de la République qui justement essayaient de positionner. Qui avait une position difficile, pour moi en tout cas, sur la question du passé colonial, des descendants du passé colonial. Ça se passe à peu près au même moment. C'est encore un débat qui crispe beaucoup les gens, des amis à vous.
Je suis pas crispé. J'ai une opinion, mais je suis pas crispé. La crispation, elle a existé de part et d'autre. Bon, il y a une crispation républicaine, puisque quand même le titre, il y a une, c'est pas tout à fait une symétrie parce que les choses sont pas sur le même plan, mais il y a une crispation républicaine qui s'est manifestée autour de la loi sur le voile, etc., qui est la République autoritaire, disciplinaire et fouettarde, pour reprendre une formule d'Alain Badiou que j'ai réutilisée. En revanche, j'ai pas signé effectivement, bien qu'il ait été initié en partie par des amis et des amis proches, l'appel des indigènes de la République, parce que je pensais qu'il y avait au moins deux ambiguïtés. Une qui recoupe ce qui est finalement le fil conducteur du bouquin, qui était de renvoyer l'indigène à une sorte de, justement, à une essence, à des racines, à une généalogie. Alors bon, là, ça dépend des interlocuteurs, hein. Tous les signataires n'ont pas le même point de vue, donc la discussion est ouverte. Entre parenthèses, là, comme responsable d'une collection d'éditions, on vient de publier un bouquin de Sadri Chiari, qui est un des initiateurs, et qui s'appelle « Politique de la racaille », qui vient de sortir là il y a un mois, et qui, lui, revendique fortement l'appel des indigènes. Donc, je pense que cette ambiguïté n'est pas levée. C'est-à-dire, si l'ambition, c'est de créer un mouvement autonome des indigènes, c'est pas l'idée d'autonomie qui me gênerait. Après tout, toute oppression est passé par une forme d'autonomie pour sortir justement de la stigmatisation, que ce soit l'oppression des femmes, l'oppression des homosexuels, etc. Il y a bel et bien une oppression postcoloniale, ça c'est indiscutable, donc que ça passe par un mouvement autonome me paraît pas ni scandaleux, et peut être positif. Tout le problème, c'est qu'après, comment on définit un indigène? Moi, je suis, si j'étais un peu démago, je dirais que je suis un indigène de la deuxième génération, après tout, hein, mais mes parents sont nés en Algérie, à Mascara. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la frontière? Comment on trie les indigènes? Quelle est la place des demi ou des quarts d'indigènes là-dedans, si on parle de généalogie? Alors, et il y a des textes qui me paraissent inquiétants, qui est de dire, ah oui, mais alors, les Gaulois, ils peuvent être dans le mouvement des indigènes, mais il faut pas oublier que c'est des Gaulois. Donc, quelque part, ils sont quand même des profiteurs du système d'oppression. Bon, si on va comme ça, on aboutit à l'idée que la classe ouvrière est dans son ensemble complice de ses exploiteurs, puisque, après tout, elle a la sécurité sociale et un salaire. Bon. On n'en sort pas. Je crois qu'il faut mener la discussion. Alors, il faut la mener amicalement. Il n'y a rien de scandaleux. Mais il y a des obscurités, à mon avis, à lever. Il est possible que dans le cours du mouvement lui-même, confronté au problème des banlieues, etc., à ce qui se passe maintenant, tout ça se décante et se clarifie. Mais tel que j'étais... Je pouvais éprouver de la sympathie, mais le texte ne me convenait pas. Et je préférais donc soulever le débat. Bon, et voilà.
Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la OEF. J'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies.
On pense encore à toi, Rouen.
Pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense.
On pense encore à toi, au Guana. Dis-nous ce que ta part, on en a.
Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, autant béni des colonies. Autrefois à Colombécha, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit. Autant béni des colonies.
On pense encore à toi, au Guana. Dis-nous ce que ta part, on en a.
Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense.
On pense encore à toi, au Guana.
Voilà, deux minutes de Sardou, c'est peut-être un peu trop, mais c'était donc le temps béni des colonies. Je pensais pas qu'on puisse oser faire ça, mais...
Les députés auraient pu chanter en chœur, là, quand ils ont voté. Ils étaient pas très nombreux, mais...
Donc on est toujours avec Daniel Ben Saïd qui publie « Fragments mécréants, mythes identitaires et république imaginaire ». C'est publié aux éditions Ligne. On discutait de la question du débat qui avait été soulevé par les indigènes de la République et le contexte que ça faisait autour du rôle positif de la colonisation. On avance vers quoi sur ce terrain, sur toutes ces questions là, parce que alors, derrière ça on a Dieudonné, on a je vois beaucoup moins clair que vous, moi, dans l'impression que tout le monde perd ses repères.
Non, la question est compliquée. Après, non, moi, un des reproches, la pratique, bon, la discussion, on vient de terminer un numéro de spécifique de la revue de Contretemps sur le postcolonialisme qui sort à la fin mars. Donc le débat avance, mais je crois que dans l'initiative à ses débuts, il y a une ambiguïté parce que soit on cherche à traiter les formes actuelles de postcolonialisme, que ce soit justement avec tous les problèmes de discrimination, de stigmatisation, d'exclusion. Alors ça peut être sur les sans-papiers, ça peut être sur la guerre du Golfe, ça peut être sur la solidarité avec la Palestine, mais c'est des sujets sur lesquels... le lien peut se faire entre des populations issues de l'immigration et puis des gens, quelle que soit leur origine, qui sont solidaires de la cause palestinienne, qui sont contre la guerre, qui sont solidaires des sans-papiers, etc. Donc ça, c'est construire un mouvement, au contraire, qui sorte du ghetto, peut-être à partir d'une autonomie ouverte, mais qui crée des liens et des convergences, et qui crée la possibilité d'une action la plus large et la plus forte possible. Puis il y a un autre travail qui est un travail de réflexion, là, y compris de réflexion historique sur la façon dont finalement s'est redéployé le colonialisme, dont la décolonisation porte mal son nom, dont on est confronté aujourd'hui à des formes de recolonisation du monde qui sont pas les mêmes, mais qui sont, si on regarde l'Amérique latine ou le monde arabe ou l'Afrique aujourd'hui, qui sont évidentes. Et là, il y a tout un travail de réflexion à faire, et le télescopage des deux risquait d'arriver au résultat qu'on ne fasse ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans un microcosme au lieu de chercher à élargir des mobilisations d'un côté, et qu'on ne mène pas non plus un travail sérieux de réflexion sur les effets présents de ce passé postcolonial qui ne passe pas, justement. Ce qui se fait, paradoxalement, beaucoup plus dans les universités américaines qu'en France, où là, les études postcoloniales ont pignon sur rue, c'est une discipline, etc. Ici, c'est des efforts désordonnés dans tel ou tel département, ça dépend des enseignants qui sont là, mais c'est pas un travail qui pourrait être à la limite du travail militant et du travail universitaire. Il y a des collaborations possibles. Alors après, comment ça va évoluer ? Ben, il y a l'évolution du débat par son mûrissement, par les échanges, et puis il y a surtout les effets dans le débat des expériences en cours qui sont grandeur nature. Hein. Je pense que l'explosion des quartiers, des banlieues de octobre-novembre fait évoluer le débat qui aurait dit il y a un an. Alors je dis pas, ça peut se discuter, mais que Joe Star y réponde une initiative d'inscription sur les listes électorales. Bon, c'était pas évident du tout. Alors, ça résout pas la question, parce que ça peut être positif, et en même temps, si rien ne change, et les élections ne changent qu'à la marge, le retour de bâton peut être tout aussi violent. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'à partir du moment où il y a une action, à partir du moment, surtout, et c'est la principale victoire du mouvement de novembre, c'est que personne maintenant ne peut ignorer le problème. On peut essayer de l'écarter, de l'étouffer pendant un moment, mais tout le monde sait qu'il y a un problème de quadruple au moins, discrimination sociale par l'emploi, spatiale par la ghettoisation, scolaire et raciale. Bon, ça fait quand même un énorme problème auquel tout le monde est confronté. Et à partir du moment où le problème est posé et donne lieu à des actions, eh ben on va voir apparaître non pas une espèce de monde gris, inintelligible, inquiétant, mais on va avoir des paroles politiques vont surgir qui seront différentes, avec des propositions, des stratégies différentes. Et je crois que C'est déjà le premier pas. Après, il y aura des désaccords, comme toujours, sur quel avenir, quelle suite. Mais qu'émerge finalement de ça des paroles politiques, et j'entends pas des paroles électorales, mais avec tout l'éventail des revendications, des positions qui auront lieu à partir de la prise de conscience, justement, que toute cette oppression a une histoire.
Alors justement, vous évoquiez les événements, les émeutes qu'il y a eu en banlieue au mois de novembre. On peut peut-être se pencher un peu sur ce qui s'est passé, puisqu'on a très largement dénié à ces événements toute valeur politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas considéré qu'il y avait là l'expression d'un d'acte politique. Comment vous l'interprétez? Est-ce que vous le voyez d'abord comme un acte politique, même si c'est pas la forme légitime de l'intervention?
Qu'est-ce qu'une forme légitime? Bon, à partir de... Vous savez, bon, la politique, à certaines manières, c'est comme la question de la justice. On a beaucoup de mal à définir la justice. Hein. Je suis enseignant en philo, ça fait 2000 ans que... les grandes figures philosophiques s'y acharnent. Donner une définition positive de ce qui est juste, c'est assez difficile et incertain. En revanche, le sentiment de l'injustice est assez facilement éprouvé et partagé. Ben, donc la politique, c'est pas, il n'y a pas un standard, un modèle, un critère d'une parole politique. Que les gens prennent la parole dont ils étaient privés, c'est déjà un acte politique en soi. Et le fait, alors après, bon, on peut discuter de l'efficacité des actions menées. Bon, en 68, c'était pas les mêmes secteurs sociaux qui manifestaient, mais ce qu'on voulait, c'était brûler la bourse plutôt que brûler une bagnole. Bon, aujourd'hui, ça s'exprime comme ça, mais je pense qu'il faut essayer d'interpréter pourquoi ça se passe comme ça. Je pense que des gens ou des jeunes dont la vie se passe à 90% dans leur quartier, leur cité ou leur ghetto, ben, Paris, c'est une ville étrangère. Aller monter à l'assaut de l'Assemblée nationale ou de la Bourse, ça n'a pas grand sens. Donc, ben, on proteste par rapport aux symboles les plus proches d'autorité. Alors, ça peut être autodestructeur, évidemment, mais ça a posé encore une fois, et on a vu apparaître, y compris d'ailleurs dans les familles des premières victimes. Là, le bouquin qui vient de sortir sur Clichy-sous-Bois, fait par les deux avocats des gamins. Bon, c'est passé peu, enfin, peut-être pas inaperçu, mais ça a été peu perçu sur le moment. Mais la parole des parents, la parole des jeunes, est une parole politique. Elle est peut-être pas dans les standards conformes, mais elle est ce qu'elle est. C'est à l'évidence une prise de parole politique. Et moi, je trouve que c'est évidemment la première chose à dire par rapport à ça, c'était d'exprimer d'abord une solidarité sans faille. Après, on peut discuter, il vaudrait mieux faire ci ou ça. Mais la première chose, c'est que la révolte devant la masse d'injustice était légitime. Bon, c'était la première chose à dire. Deuxièmement, il est inquiétant qu'il y ait eu aussi peu de réactions par rapport à l'histoire de l'état d'urgence. Alors bon, c'est passé, oui, ça a été symbolique, ça n'a pas été appliqué, il y a quelques... Bon, ça, on comprend. Mais pour moi, l'enjeu n'était pas là. C'est que dans un contexte de législation antiterroriste, d'exception à l'échelle... qui a commencé avec le... Enfin, qui n'a pas commencé, mais qui a franchi un palier avec le Patriot Act aux États-Unis dès l'automne 2001, après les attentats de Manhattan. Il y a eu 4 révisions en Angleterre en moins de 2 ans, et le code pénal en Espagne aussi. Bon, on est dans une logique de législation et d'état d'exception rampant ou permanent, et de pouvoir faire passer cet état d'urgence à l'occasion de l'affaire des banlieues sans qu'il y ait de réaction des syndicats du mouvement ouvrier ou alors mineurs, c'est tout simplement le point marqué de ce point de vue-là par la politique Sarkozy, c'est d'imposer l'habitude, l'accoutumance, la banalisation d'un état d'exception. Ça, c'est grave, et franchement, là-dessus, les réactions ont été ultra minoritaires et minimes. On a failli faire un appel que le PC avait signé dans un premier temps. Il a suffi que 2 députés envoient une lettre à l'UMA pour que, en disant c'est pas le bon terrain, faut pas, c'est public, hein, c'était Gérin, le député de Lyon et Villeurbanne. Pour que finalement on mette un petit peu en veilleuse la protestation au lieu de dire là-dessus non, c'est une question de principe.
Mais on a assisté aussi à une certaine atonie de la gauche pendant ces événements. On a les formes de solidarité et ont été minimes. Enfin, on a vu quasiment rien se passer en banlieue. On a eu une manifestation à République un soir en semaine. Enfin, il n'y a pas eu de prise en main politique par les acteurs de la gauche de ces questions.
Je dois dire, mais c'est difficile pour plusieurs raisons. C'est d'abord, ou bien on vit dans les quartiers qui ont explosé, mais à la différence même de l'extériorité que pouvaient avoir des mouvements de gauche radicale, hein, j'entends, après 68 par rapport aux entreprises, mais on pouvait, parfois c'était un peu tumultueux, mais on pouvait aller distribuer des tracts, etc. Là, le canal, finalement, de dialogue passait principalement, là où elles existent, par des canaux municipaux de gauche, des choses comme ça. Mais c'était très difficile, quand on n'est pas déjà dans les quartiers en question, d'intervenir de manière extérieure, en forme de solidarité. En revanche, que ce soit par le biais des travailleurs sociaux, sous toutes les formes communales, PJJ, etc. Il y a eu un travail de solidarité. La gauche, alors si on parle de la gauche officielle, évidemment, n'est pas sur un terrain commode, parce qu'on ne peut pas dire que cette explosion est le résultat des 4 ans maintenant, des 4 ans de gouvernement Villepin ou Raffarin. C'est le bilan sur un quart de siècle au moins des politiques de la ville, des politiques d'emploi, des politiques scolaires. Bon, alors, c'est un bilan qui est lourd à porter. On comprend qu'il y ait de la gêne. Plus les occasions manquées sur les sans-papiers, sur la régularisation en 97, etc., etc. Donc, après, on peut toujours courir après son ombre, mais c'est un peu tard. Alors, malheureusement, oui, on a vu là les effets pratiques de la dégradation des rapports de force, des batailles non menées ou des capitulations en rase campagne accumulées depuis 20 ans. C'est que la solidarité a été minime, en tout cas très minoritaire. Et bon, c'est quelque chose à reconstruire. Après tout, il y a un début à tout. Il y a peut-être un nouveau cycle qui s'est amorcé là.
Semble si apaisé dans ma ville. Si je suis fou, que cache cet asile? Ces africaines aux cheveux lisses qui malgré tout l'avaient faite métisse. Tous ces sourires qui coulent à flot et tant de bourses à boire des chocolats chauds. Tous ces enfants à qui il manque rien et les terrasses qui ont fait le plein. Je suis fracas quand la foule est tranquille et toi tu sembles si apaisé ma ville. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris 4 villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent. Il manque que le sable et le soleil couchant. Il manque que la mer, y a déjà les marchands. Y a même un peu de vent qui fouette et les pigeons qui font semblant d'être des mouettes. Des jambes nues et des cuisses croisées, comme un certain l'a écrit la nausée. Tous égouttés à vous dégoûter du bonheur, à pas aimer qu'il soit bientôt 4 heures. Je suis fracas quand la foule est tranquille et toi tu sembles si apaiser ma ville. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris 4 villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent. Tout semble
si apaisé dans ma ville. Mais j'y crois pas, tout ça c'est trop facile. Toutes les villes se prennent avec des mots. Il y a toujours une moitié pour dire bravo. C'est pas la guerre, c'est dépassé. On me dit c'est qu'un mauvais moment à passer. En tout cas si je lâche mon lasso, ils seront à la porte de mon ghetto. Comme à Toulon, Orange ou Marignane. Mais je m'en fous ici, on aime la castagne.
N'attends pas qu'ils reviennent,
même s'ils n'ont pas d'armes, tu vois.
N'attends pas qu'ils reviennent,
ils ont pris quatre villes déjà.
N'attends pas qu'ils nous tiennent,
même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là.
N'attends pas qu'ils reviennent. N'attends pas qu'ils reviennent,
même s'ils n'ont pas d'armes, tu vois.
N'attends pas qu'ils reviennent.
Ils ont pris quatre villes déjà.
N'attends pas qu'ils nous tiennent.
Même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là.
N'attends pas qu'ils reviennent. N'attends pas qu'ils reviennent. N'attends pas qu'ils reviennent. N'attends pas qu'ils nous tiennent.
Voilà, vous êtes toujours dans les oreilles loin du front et on reçoit donc ce soir Daniel Ben Saïd. On va peut-être aborder maintenant la question de l'antisémitisme sur laquelle vous revenez beaucoup dans Fragments mécréants et que vous abordez également dans un livre à apparaître sur la question juive, donc des commentaires sur le texte de Marx. Et ce qui nous intéressait d'aborder, c'était la question juive. De toute façon, la question de l'antisémitisme est récurrente dans le débat politique intellectuel en France. Elle a été particulièrement récemment à l'occasion de la mort d'Ilan Halimi.
Bah oui, mais alors on est toujours sur un terrain qui est assez mouvant à propos de la question de l'antisémitisme. Il faut pas le sous-estimer, hein. Il y a un vieux fond refoulé d'antisémitisme bien chez nous, qui s'exprime parfois chez De Villiers ou dans le Front National, etc. Mais je pense qu'il renvoie à une histoire profonde, y compris d'ailleurs une partie de l'histoire du mouvement ouvrier, hein. En gros, les pionniers du mouvement ouvrier, Proudhon, Toussnel, Bakounine, ont été... D'ailleurs, je dirais pas antisémite, justement, parce qu'à l'époque, c'était plus un antijudaïsme religieux qu'un antisémitisme racial. Le mot d'antisémite est apparu à peu près en 1879 seulement, et c'est pas par hasard, dans le contexte de l'organisation du monde en états nationaux et de la colonisation. Alors, finalement, on a racialisé le juif au moment où sont parus les textes de Gobineau sur l'inégalité des races, etc. Donc c'est un phénomène très marqué, très situé historiquement. Bon, avant, il y avait, quand je dis anti-judaïsme religieux, c'est ceux qui ont crucifié le Christ, qui l'ont donné, etc. Ça, c'était de l'ordre religieux, mais ce que là, on est passé à une caractérisation raciale, donc c'est une évolution. Alors... Il y a ce vieux fond qui existe en France, qui a été refoulé parce que, après la guerre, finalement, le discours officiel s'est construit sur le mea culpa de Vichy, etc., mais qui existe. Bon. Par ailleurs, il est, à partir du moment où, justement, les solidarités sociales jouent beaucoup moins, et où tendent à prendre le pas les réflexes de défense et d'appartenance communautaire, bon, on voit remonter des formes d'antisémitisme, d'autant plus que ils se nourrissent aussi, et ça c'est une deuxième source qui est pas la même, de la politique, faut dire coloniale, scandaleuse, je sais pas, on peut l'appeler comme on veut, de l'État d'Israël, bon, qui est en train d'infliger au nom du malheur subi naguère, considère qu'il a tous les droits d'infliger aux Palestiniens, là, tout simplement, même pas leur oppression, mais leur négation pure et simple. Donc tout ça fait que il y a une augmentation des actes antisémites. Je pense qu'elle est probablement vraie, et puis elle est pas illogique. Elle est considérablement amplifiée par le fait qu'une organisation communautaire comme le CRIF fait un recensement. Si on avait l'équivalent du côté des populations africaines ou d'origine arabe, on aurait sûrement une quantité encore supérieure, de puisqu'ils recensent toutes les humiliations, les maux de travers au quotidien, etc. Mais ceci dit, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il doit y avoir une réelle augmentation, et dans le contexte international, ça ne peut qu'empirer. C'est pourquoi je pense que la politique d'une organisation comme le CRIF est absolument désastreuse, parce qu'en se comportant comme l'agence diplomatique ou comme la représentation officieuse de l'État d'Israël et le soutien à sa politique, ben évidemment, il renforce l'identification, à mon avis totalement fausse, entre juifs, religieux ou pas d'ailleurs, c'est une question de définition compliquée, et Israël. Et tout le travail idéologique entrepris maintenant depuis des années par Taguieff, par Bernard-Henri Lévy, par Milner maintenant, etc., tend à, justement, à dire « Mais non, c'est exactement la même chose. Qui est antisioniste est forcément antisémite. » Bon, voilà.
Ce qu'un rabbin a démenti, je crois récemment, un rabbin anglais, il me semble, qui a fait une déclaration.
Mais oui, mais même il y a des rabbins aux États-Unis qui, pour des tas de raisons d'ailleurs, mais ce qui m'a amené, je ne veux pas personnaliser l'affaire, mais c'est pour montrer qu'à quel point on se trouve piégé par une contradiction. Moi, il m'était jamais venu à l'idée d'invoquer mes origines pour faire de la politique. Bon, je suis citoyenne du monde, internationaliste. Pourquoi je vais aller déterrer mes ancêtres pour prendre la parole politique? Et puis en 2002, au moment de la deuxième intifada, quand il y avait toutes ces déclarations de porte-parole qui prétendent parler au nom de la communauté, j'ai eu un sentiment de viol, d'une certaine manière. Mais enfin, de quel droit ces types-là parlent au nom de mes tontons, tata, qui sont pas revenus d'Auschwitz, qui sont pas morts pour la gloire d'Israël et de Sharon. Faut quand même pas déconner. Donc, on a fait un appel avec Ronnie Broman à l'époque, Marcel Franciscan. Mais c'est un signe de défaite, ça nous a paru utile, hein. Tout le monde a hésité de dire, en tant que juif, qu'on dise on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ils n'ont pas le droit de parler en notre nom. Alors ça a libéré des gens qui étaient gênés. Ça a aidé par ailleurs dans les milieux d'origine arabe, là pour le coup en France, de dire vous voyez bien qu'on peut dissocier et que c'est un conflit politique dans lequel on peut se trouver plus proche. Je me sens mille fois plus proche de Leila Shahid ou d'Elias Sambar qui dirige la revue d'études palestiniennes que du rabbin machin, six trucs, ou je sais pas quel est le plus réac des deux, je les confonds tout le temps, mais bon, voilà, non, il y en a un qui est plus fréquentable que l'autre. Mais bon, il n'y a pas de priorité ou de préférence communautaire là-dessus, c'est un conflit politique. Et toute la politique d'Israël et de ses relais en France consiste à en faire un conflit communautaire et confessionnel et racial. Il y a des textes de 2002 de ministre de l'Intérieur de l'époque d'Israël, Uzi Landau, qui dit « Mais nous, on préfère avoir affaire au Hamas. » C'est un autre débat sur le sens de la victoire du Hamas aujourd'hui. Mais on préfère avoir affaire parce qu'au moins les choses sont claires. Avec eux, on ne peut pas discuter. C'est religion contre religion. Et on fait disparaître la question nationale palestinienne. C'est plus une question politique. Les Palestiniens, c'est des Arabes. Bon, que les Jordaniens ou les Égyptiens s'occupent d'eux et les accueillent s'ils le veulent. Mais la question est réglée. Alors bon, par rapport à ça, moi je suis assez embêté. J'étais absolument contre aller à la manif sur Ilan Halimi. Collectivement, mon organisation n'a pas appelé. Évidemment, et les personnalités dites politiques, dirigeantes de partis, il y a eu effectivement là-dessus un mouvement d'union nationale. Alors déjà, derrière Sarkozy, c'est impossible. Mais deuxièmement, c'est choquant parce que il n'y a jamais eu le même sursaut quand les jeunes de Clichy se sont fait descendre. Donc, si on veut construire un mouvement par-delà justement les origines, les appartenances, etc., il est clair que si, plein de bonnes intentions, des jeunes de Clichy allaient à la manif pour Ilan Halimi, à l'imis, ils allaient se trouver à une manif de soutien à Israël derrière le CRIF, Israël vaincra, etc. Donc c'est impossible. Ce qui est regrettable, c'est que à cette occasion-là, et là je le dis y compris pour nous, il n'y ait pas eu une initiative spécifique de la gauche, mais il faudrait la construire sur la durée. On est dans le scénario désastreux. On rappelait tout à l'heure la manif de SOS Racisme et de l'UEJF. On défend les Juifs uniquement. Bon, mais tout ça s'accumule. Donc, si à chaque fois, au lieu de faire des manifs contre tous les racismes, en donnant en plus pas seulement un contenu sentimental, mais les raisons sociales de ça, et pas simplement un discours sur l'amour de l'autre, etc., qui est bon, un peu du prêchi-prêcha, mais de dire, bon, les solidarités, ça repose quand même sur des bases matérielles. Ben, à chaque occasion manquée, on engrange, et là, finalement, je sais que la Ligue des droits de l'homme ou le Parti communiste ont hésité à appeler à la manif. Finalement, ils ont cédé à la pression, ils y sont allés. Mais je crois que ce qu'il aurait fallu faire, c'est une initiative, alors peut-être plus modeste, mais indépendante d'organisations se réclamant de l'histoire du mouvement ouvrier, etc., mais qui ait sa protestation propre contre un aspect antisémite. Mais ça serait d'autant plus crédible si, en même temps, on avait réagi plus unitairement et plus vigoureusement sur l'état d'urgence, sur l'affaire de Clichy, etc. Donc c'est un problème de bataille dans la durée.
Mais y compris, il y avait un problème autour de cette manifestation, c'est qu'elle se positionnait contre l'antisémitisme, mais la véracité des faits antisémites qui étaient mis en avant était pas. Il y a encore un flou. Est-ce qu'il s'agissait bien de ça, ou est-ce qu'il s'agit une fois de plus d'un...
Bon, là, on est dans l'ordre de l'interprétation. C'est vrai que la prudence, c'est dire bon, le problème, c'est qu'on ne fait pas. J'imagine, vous et moi, une énorme confiance non plus à la justice, surtout par les temps qui courent. Donc, on peut dire, bon, laissons l'instruction et voyons. C'est vrai qu'il y a quand même un échaudé par l'affaire du RER et la propagation accélérée des rumeurs, l'emballement des médias, Sarkozy a sauté sur l'occasion, etc. Maintenant, je pense... Enfin, mais ça, on est dans l'ordre de l'interprétation. Hein, c'est pour ça qu'il fallait pas se précipiter. Il me semble plausible, même si au départ, d'ailleurs, il s'agit d'un acte de délinquance horrible, mais routinière, que la dimension antisémite est intervenue dans le cours. Broman, qui pourtant est pas suspect de fanatisme communautaire, bon, quand il a été les tentatives de racket, c'est quelque chose qui est apparu aussi par rapport à lui. Donc, je pense que c'est plausible, mais peu importe. En tout cas, à partir du moment où l'affaire prend cette dimension-là, je pense qu'il fallait prendre son temps. Et à partir du moment où il y avait un emballement qu'on peut regretter, il faudrait au moins que ça serve de leçon et qu'on cherche les moyens de réagir collectivement, unitairement, sur un autre registre devant des choses comme ça. Parce que là, le problème, c'est que on peut faire la chronologie. La plupart d'entre vous sont plus jeunes, mais en gros, la gauche a perdu la main sur cette bataille-là. On peut penser ce qu'on veut, mais même les manifs... Parce qu'on nous a demandé pourquoi vous étiez aux manifs sur la profanation de Carpentras ou sur l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, et pas aujourd'hui. Ben oui, mais c'est que justement, le contexte n'est plus le même. Et l'initiative n'est plus la même. Aujourd'hui, c'est une manif d'Union nationale hier à Sarkozy, dont la plus grosse composante, parce que finalement, au-delà des personnalités, comme on dit, ça n'a pas mobilisé les masses, ça a mobilisé essentiellement la communauté juive elle-même. Et du coup, on est dans des manifs de soutien à la politique d'Israël et d'Union nationale en France. Mais ne rien faire, c'est aussi subir. Donc c'est ça qui m'embête là-dedans. C'est que perdre la main, oui, mais comment la reprendre sur l'ensemble de ce terrain? Alors, tout peut y contribuer, hein. Les mobilisations contre les lois Sarkozy, bon, ça devrait être un test grandeur nature. On va voir si ça bouge. Quoi? Ben oui.
Je sens les militants de la cause des sans-papiers et de ce qui travaille sur les questions de l'immigration est épuisé et un peu désespéré. Là, le rouleau compresseur a l'air plus... Je les vois bien se mobiliser, mais tout en ayant une espèce de truc, c'est trop gros.
Non, mais ça, c'est le problème, hein, c'est qu'on est... Bon, alors maintenant, moi, je vais pas dire haut les cœurs ou les drapeaux et tout. Bon, il faut regarder les choses en face, parce que les défaites sont cumulatives, elles se nourrissent les unes les autres. Et finalement, si on regarde dans le rétroviseur, sur les années écoulées, je ne sais pas jusqu'à quand on peut remonter, mais même sur la séquence la plus récente, ben on a encaissé plus de coups qu'on en a donné. Hein. Que ce soit les retraites, le mouvement de 2003, les sans-papiers, et puis ça continue. Alors, en même temps, on sent bien que les rapports de force n'ont pas complètement basculé. Il y a des sursauts. Je pense qu'on avait discuté au moment du nom de gauche. Alors, il fallait pas grossir l'événement parce que c'est un événement électoral. Bon, même s'il est important. Là, on va voir avec le CPE s'il y a une suite. Mais sinon, il y a des sursauts, il y a des soubresauts. La spirale des défaites continue. Donc c'est pas... Mais ça peut déboucher sur une vraie crise. En même temps, la fragilité, elle est aussi de l'autre côté. Hein, parce qu'il tape très dur avec une légitimité très faible. Donc tout ça peut un jour trébucher sur un mouvement qui n'est pas prévu. C'est toujours comme ça que ça se passe, d'ailleurs. Ce qui est prévu n'arrive jamais, donc... quoi ?
Ah voilà, c'est bon, c'est pas prévu, là.
Claro. C'était donc Arpioni qui interprétait Zapata. Alors ça, c'est issu de la compilation officielle de Le ZLN. Hein. Et alors, la compilation officielle de Le ZLN a fait 4 CD. Ça, c'est beau, le socialisme. On va donc... on est toujours avec Daniel Ben Saïd. On voudrait changer un petit peu de latitude pour justement aller en Amérique latine, en Amérique du Sud, puisque c'est à peu près le seul endroit dont nous viennent des échos un petit peu enthousiasmants. Et alors, si on a été un peu déçu par ce qui s'est passé au Brésil, qui a peut-être pas répondu aux attentes qui avaient été placées dans Lula, en tout cas il y a la surprise qui vient du Venezuela. Et on a plusieurs copains qui reviennent de là-bas, qui sont enthousiasmés, qui ont l'impression qu'il y a un truc, qu'il y a un modèle qui se crée, qu'il y a quelque chose qui bouge. Je sais que vous connaissez assez bien ces questions-là. Comment vous voyez ce qui se passe là-bas?
Non, le modèle, restons prudents. Hein.
Moi aussi, je suis contaminé.
Non, mais il y a une histoire quand même très particulière du Venezuela qui est que c'est sûrement un des pays où la société était la moins organisée politiquement, syndicalement, ce qui est à la fois une force parce que ça a permis une mobilisation à chaque épreuve de force, tentative de coup d'État contre Chavez, etc. La mobilisation est montée en puissance, elle n'était pas encadrée par des appareils préconstitués très forts. Ça peut être une faiblesse aussi à un moment donné si la tension devient encore plus forte qu'elle ne l'était. Puis il y a l'arme du pétrole que d'autres pays ont pas ou ont moins. Donc il y a toute une série de données finalement spécifiques au Venezuela. Mais c'est vrai que dans un contexte tristouné ou morose, bon, c'est une éclaircie, une embellie, mais qui surtout a une logique qui peut être cumulative en Amérique latine. Bon, alors si on regarde maintenant le tour des crises, hein, on va pas faire un panorama là, mais bon, d'abord, on voit très bien que dans les forums sociaux, bon, le dernier a eu lieu à Caracas en janvier, l'axe de sympathie, je le dirais comme ça, s'est déplacé des attentes qui pouvaient être investies sur le Brésil vers une sorte d'axe qui n'en est pas un, hein, vraiment. Enfin, en gros, l'attraction joue plus aujourd'hui vers Venezuela, Cuba et Bolivie tout récemment. Bon, alors, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que en même temps, Chavez... alors, on peut avoir toutes les prudences. C'est un militaire. Il peut être fantasque. On ne sait pas. On ne peut pas dépendre ni Dieu, ni César, ni tribun, ni militaire, même tribun populiste, etc. Donc, il faut être prudent. Mais c'est vrai tout de même qu'il a résisté à deux tentatives de coup d'État où avaient et les États-Unis et la bourgeoisie et les médias. Donc, ce n'est possible qu'avec un vrai soutien populaire, que les mesures sociales prises ont été au fur et à mesure d'ailleurs plus radicales sur la réforme agraire qu'au Brésil, les prises d'usines abandonnées. Bon, il y a un mouvement qui va croissant et qui arrive à se combiner, qui peut se combiner avec ce qui se passe dans des pays voisins, alors notamment la Bolivie. Là aussi, c'est pas joué. Hein. On a un phénomène aussi, hein, c'est que Evo Morales, populaire, maintenant, il a pris un vice-président qui développe un discours bizarre sur le développement du capitalisme andin. Bon, je vois pas trop ce que ça peut être, mais on verra. Hein. Et surtout, cette situation-là, pour le moment, met en échec le projet de grand marché des Amériques. C'est-à-dire que la dernière rencontre de Mar del Plata, le projet américain de grand marché, donc hémisphère sud et nord des Amériques, est bloqué. En revanche, le Venezuela a adhéré au Mercosur. Ça ne fait pas du Mercosur une espèce d'union bolivarienne latino-américaine. Hein. On est dans l'intermédiaire. Mais enfin, ça ouvre des marges de manœuvre, en tout cas par rapport à l'emprise américaine sur le sous-continent. Et qui sont obligés, du coup, de compenser la panne de leur grand projet de grand marché par des accords bilatéraux, dont celui que vient signer la Colombie, et puis éventuellement l'Équateur, donc de faire des partenariats bilatéraux à la place, avec des accords militaires et des accords économiques. Mais tout ça change les rapports de force à l'échelle de l'Amérique latine, ce qui fait d'autant plus regretter, là, moi, j'en suis pas malade, mais on pourrait... l'affaire brésilienne, pas qu'on ait eu des illusions, parce que l'évolution de Lula a été annoncée dans sa campagne électorale de 2002, avant même la victoire, hein, la lettre au peuple brésilien était un programme social-libéral, pour dire vite. Alors ils ont été plus loin dans l'excès de zèle, en faisant des taux de remboursement de la dette que ni le Fonds monétaire international ne leur demandait d'ailleurs. Donc ils ont été au-delà et ils ont vidé du coup les budgets, ce qui fait qu'il n'y a plus pratiquement rien pour le financement de la réforme agraire, qui est resté à un niveau très très bas, et pour le fameux programme Fin Zéro, qui a été le grand étendard de la campagne électorale de 2002. Alors certains Brésiliens disent que ça a été le programme Zéro et pas Fin Zéro. C'est pas tout à fait vrai, mais ça a été un programme assistentiel où il y a eu des crédits pour les zones les plus pauvres, un petit peu, mais c'est pas un programme d'emploi, de réforme agraire, qui était un programme finalement cohérent et global d'éradication, ou en tout cas d'attaque sérieuse à la pauvreté. Ce qui fait que Frei Beto, qui était théologien de la libération en charge du programme, a démissionné discrètement. Mais le bilan est très mauvais. Et le pire, parce que encore, bilan social était déjà très mauvais, mais là, la grande première dans l'affaire, c'est quand même, non pas une corruption ordinaire où les gens... enrichissement personnel, il y en a peut-être eu, mais c'est même pas ça qui choque, c'est le fait d'avoir acheté les votes des parlementaires bourgeois pour appliquer leur politique. Alors ça, d'habitude, les bourgeois achètent les voix des députés ouvriers ou syndicalistes corrompus. Là, ils ont payé les bourgeois pour faire exactement leur politique. Donc c'est un désastre moral, en plus d'un désastre politique. Et c'était pas du tout fatal, hein. C'est pas un problème de tout ou rien... le Brésil, avec son poids sur le continent, avait les moyens, quand on voit justement ce qui se passe maintenant au Venezuela ou en Bolivie, de construire un front de refus de paiement de la dette, même en prenant une formule diplomatique de moratoire. C'est la fameuse formule sur le créditeur et le débiteur. Hein. Plus on doit... plus c'est le créditeur qui est pris à la gorge. Bon, si tous les pays d'Amérique latine avaient dit on reporte le paiement de la dette, et qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Ils vont envahir? Non. Bon, alors, il y aura des bagarres commerciales, etc. Et le Brésil avait le moyen de prendre la tête d'un front, y compris avec l'Argentine, la Bolivie ou le Venezuela, de non-paiement de la dette, et donc au moins mettre en route des programmes sociaux sérieux. Alors là, on est un peu en décalé, à contre-temps. En même temps, tout ça crée un climat. Vous avez évoqué par la musique l'affaire mexicaine. Là aussi, c'est quand même compliqué. Mais on va voir quel est le résultat de l'autre campagne initiée par les zapatistes. Elle a déjà au moins deux effets importants. C'est d'une part, sans abandonner évidemment la question, la base de départ qui est la question de la revendication indigène, mais le fait de faire une campagne parallèle à la campagne présidentielle officielle oblige à construire, même progressivement, une proposition pour le pays tout entier, donc à se confronter à l'état du mouvement syndical, etc., etc. Et surtout, à travers la campagne, on verra ce qu'il en reste à la fin de la campagne, mais à mettre en place des cadres unitaires et pluralistes, puisque finalement les courants aussi bien sociaux d'ailleurs que politiques qui se sont associés à la campagne recouvrent un éventail assez important. Bon, et je crois que tout ça intervient dans un contexte plus favorable que ce qu'il aurait été il y a 5 ou 6 ans.
L'émission va se terminer. On rappelle que vous publiez alors Fragments mécréants. Mythe identitaire et république imaginaire, c'est publié chez des amis à vous, si je me trompe pas, c'est Ligne.
Il y a que des amis. Et l'autre, c'est La Fabrique, c'est aussi des amis.
L'autre, c'est La Fabrique édition, et c'est donc, ça nous arrive jamais, ça, mais on a le
je
livre
vous
avant
laisse.
Même qu'il soit publié, comme si on était un vrai média bourgeois. La Fabrique édition, et vous y publiez, sur la question juive de Karl Marx, et c'est, présentations et commentaires de Daniel Ben Saïd. Je crois que vous avez réussi à écrire plus que lui, si j'ai bien compris.
Beaucoup plus, parce que c'est un texte très concentré qui, si on n'a pas les clés, difficile à lire un siècle après, quand on ne connaît pas le débat sur la place de la religion en Allemagne au XIXe siècle. Et c'est un texte qui prête à beaucoup de malentendus. Ce pauvre Marx était accusé d'antisémitisme. ce qui tient pas debout, ma femme.
Je trouve ça classe. Si on est dans le même camp que Marx. Voilà. Donc, on savait qu'on n'aurait pas le temps d'aborder tous les sujets que votre venue nous faisait envisager. C'était un plaisir. Donc, vous revenez quand vous voulez. On abordera les autres une autre fois. Voilà, pour célébrer la journée de la femme, on a donc eu la délicatesse de ne pas faire ni comme François Hollande, ni comme Jacques Chirac, ni comme Sarkozy, ni comme PPDA. On n'en a pas parlé, mais on est de tout cœur avec les camarades qui doivent finir de manifester dans le quartier de Montparnasse. Si vous voulez retrouver les oreilles loin du front, on a un site internet qui est très beau, il marche bien, et il y a à peu près toutes les émissions dessus depuis plus d'un an maintenant. Donc c'est sur loldf.free.fr, loldf.free.fr, vous retrouverez donc toutes les émissions, les chroniques, les mix qui sont réalisés. Et puis voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve avec le comité Tchétchénie, avec qui on parlera de la situation actuelle en Tchétchénie. Et puis ce soir, les délégués zéro à la réalisation, c'était Fred et Jérémy, et autour des micros, il y avait les guérilleras de la Radio Libre, une paire de Juliette et Alexandrine. Et puis on merci Gwen d'avoir assuré ce soir le rôle du commissaire politique. On se retrouve la semaine prochaine. On vous abandonne d'ici là dans les bras d'Écho du Capricorne. Ciao.